Je suis intéressé de savoir comment vous, comme amateur de hockey, comme amateur du Canadien de Montréal, vous avez réagi lorsque vous avez appris que John Tavares avait refusé de rencontrer le Canadien de Montréal. Dans cette semaine, un peu de flirt et de séduction, ben, ça a tout l'air que John Tavares voulait pas flirter avec le Canadien. Et autre affaire également. John Tavares, c'est beau pour l'amateur et les fans qui nous écoutent, mais John Tavares fait un pied de nez à l'organisation de la Ligue nationale qui compte le plus de titres, l'organisation la plus prestigieuse de la Ligue nationale, avec son histoire riche, et un de tes joueurs vedettes du circuit ne daigne même pas vouloir te rencontrer. Quel message ça envoie à une organisation? Alors, pour nous parler de tout ça, pour nous parler de ce sujet quand même chaud, intéressant, on va se tourner du côté de Ray Lalonde qui est au bout du fil, qui va nous parler. J'ai hâte d'entendre son opinion là-dessus et qu'est-ce que ça représente également pour une organisation et qu'est-ce que ça représente. Puis l'autre affaire également que je vais poser à Ray, c'est de savoir s'il a connu pareille situation. Je me souviens, match des Étoiles, rumeur, Vincent Lecavalier. Le match des Étoiles est à Montréal. Lecavalier est véritablement... présenté aux amateurs comme un héros, comme un futur presque porte-couleur du Canadien. Puis finalement, le Cavalier n'est jamais vu venir jouer avec le Canadien. Ray Lalonde, salut.
Salut, Yannick.
Ray, qu'est-ce que ça envoie comme message, la décision d'un gars comme John Tavares de ne pas rencontrer le Canadien, à tout le moins d'avoir la décence de dire « Bon, je vais tendre l'oreille, même si mon idée est faite. » À tout le moins tendre l'oreille à une des organisations les plus prestigieuses. Mais quel message ça envoie aux Canadiens, ça?
Ben, ça envoie un message que l'organisation n'est pas perçue comme une destination dynamique, enthousiaste et excitante pour un joueur agent libre qui fait le choix, littéralement le choix le plus important de sa carrière, parce qu'il a eu ses premières années dans la Ligue nationale, il est établi comme un joueur vedette, Yannick. Là, il peut aller où il veut et être payé ce qu'il veut. Et je pense que la plupart des joueurs semblent tromper, mais mon expérience dans le basketball avec la NBA, dans le football professionnel et dans la Ligue nationale de hockey, les joueurs veulent deux choses. Ils veulent maximiser leur valeur, ils veulent gagner. Le reste des facteurs sont importants, mais moins importants. On veut gagner, puis on veut faire le maximum d'argent parce que les carrières peuvent s'arrêter du jour au lendemain. Alors, Tavares, sa décision, avec laquelle il a partagé tout ça avec son agent, de choisir 4-5 équipes, évidemment, sachant très bien qu'il y avait un intérêt général dans la Ligue, c'est une décision qui reflète ses choix. Il a fait de choix d'équipes qui ont fait les séries, d'équipes qui sont en croissance, d'équipes qui ont des destinations beaucoup plus séduisante pour lui, qui probablement rencontre les objectifs de gagner plus tôt que plus tard. Et ceci étant dit, je n'exclus pas le fait qu'il puisse re-signer avec les Islanders. Mais ce que je veux dire, c'est que les Canadiens ne fitaient pas, ne rencontraient pas les critères de John Tavares. Et qu'est-ce que ça veut dire pour ce marché-là? Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre dans le passé. T'as rendu hommage au club, puis à l'histoire, la plus prestigieuse, puis 24 Coupes Stanley, Yannick, mais honnêtement, là, on est d'une génération moderne où les joueurs regardent aujourd'hui. Si tu me permets l'expression, là, me, myself and I, maintenant. Alors, on est rendu là, et c'est pour ça que les Canadiens ne sont pas perçus comme une équipe attrayante ou séduisante.
Je te mets dans les souliers de Jeff Molson deux secondes. Ton directeur général t'apprend, écoute, malheureusement, John Tavares ne veut pas nous parler. Tu réagis comment?
Ben, je suis déçu, évidemment. Moi-même, personnellement, je suis déçu parce que je voudrais que les Canadiens puissent se regrouper, refaire leur réputation et gagner. Mais là, coup par coup, moment par moment et saison après saison, on se rend compte que c'est pas vraiment souhaitable pour les joueurs de venir à Montréal. Et je parle pas de joueurs francophones. Je parle de joueurs établis qui regarde l'organisation, une organisation qui a critiqué ses joueurs à la fin de la saison, puis on va y arriver dans ton deuxième point, en blâmant l'attitude. Mm. OK, mais là, quand tu blâmes tes propres employés, ben là, imagine-toi pas que les employés vont être contents et se réjouir de venir jouer pour toi, porter tes couleurs, malgré le succès du passé. On n'est pas dans le passé, on vit dans le moment aujourd'hui. Les joueurs, eux, vont reconnaître l'histoire du club. C'est gentil ce que Josh Georges a dit, puis que Brendan Gallagher l'a rapporté, bien entendu. Sauf que il y a 30 autres équipes. Il y a des équipes comme Las Vegas, il y a des équipes comme Washington et Pittsburgh, il y a des équipes comme le Lightning, qui sont assez attrayantes, séduisantes, et qui seraient, et des équipes comme Toronto, qui sont jeunes, en pleine croissance, qui probablement attirent les joueurs beaucoup plus que les Canadiens actuellement. Est-ce que ça peut changer dans quelques années, Yannick? Bien sûr, mais pour le moment, c'est pas le cas.
Je disais tantôt que t'étais, je te pose même pas la question parce que je suis sûr de la réponse. C'est toi qui as organisé, en fait, toutes les festivités entourant le match des étoiles lorsqu'il a été présenté en 2009. Exact?
Oui.
OK.
Oui.
Tu te rappelles de cet accueil qu'on avait octroyé, donné à Vincent Lecavalier cette fin de semaine-là? Il y avait tellement de rumeurs et il y avait tellement... On gère ça comment, tout ça?
Ben, écoute, Vincent Lecavalier, j'étais parmi ceux qui croyaient qu'il allait avoir une transaction. Je me rappelle très bien d'être à un lunch le midi pendant la semaine du match des étoiles, puis Bill Daly et Gary Bettman étaient au même restaurant et ça bourdonnait de rumeurs au sujet d'une transaction imminente au sujet de Vincent Lecavalier. Et c'était durant les festivités. Puis tout le monde ne parlait de ça, qu'on attendait éventuellement que l'annonce. Et ça n'a pas eu lieu. Puis là, après ça, toutes sortes de choses se sont dites. Je n'avais jamais rencontré Vincent Lecavalier. Je l'ai rencontré l'été dernier dans une conférence qu'on a donnée ensemble. C'était un grand plaisir. C'était un gars charmant. Et puis, boy, j'étais encore plus déçu qu'on ne l'ait pas eu en 2008-2009. Alors, pour te dire qu'aujourd'hui, là, ces choses-là, ça arrive. Tu penses que tu es proche d'une transaction. Tu penses que le joueur s'en vient. Tu te prépares en conséquence. Et là, après ça, il y a une décision qui fait que le joueur a décidé du contraire, et là, tu te poses plein de questions à savoir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce qu'on n'a pas pu rencontrer à la mesure de ses attentes. Et dans le cas de Vincent, ben, je pense, je veux pas parler pour lui, mais je pense qu'il savait qu'il était dans une situation où peut-être le ciel allait lui tomber sur la tête à Montréal avec l'énorme pression que ça représentait à ce moment-là, et que tout le monde allait se rallier autour de lui, bien sûr, mais ça vient aussi avec une énorme attente. Et peut-être qu'il a décidé qu'il allait poursuivre sa carrière aux États-Unis en disant que, écoute, je peux jouer le hockey que je veux. J'aime ça être un peu à l'abri de tout ça. Et on sait la carrière qu'il a connue à Tampa Bay par la suite avec les Flyers. Donc, on peut pas le blâmer pour ça non plus. Tavares, moi, je me souviens, en 2009, c'était le repêchage. Puis pendant le repêchage à Montréal, c'était au mois de juin, on avait Victor Hedman, John Tavares,
Matt Duchesne.
Ils étaient tous à Montréal. On avait organisé des activités avec eux, puis on savait que John Tavares allait être un joueur étoile. À ce moment-là, on savait qu'on n'avait pas de chance de l'obtenir. Mais tu sais, quand un joueur devient agent libre au calibre de John Tavares, il peut transformer une équipe à lui seul. Alors, c'est malheureux, cette situation-là. Mais moi, je pense que les Canadiens doivent tout de suite se lever et travailler à améliorer leur équipe, leur effectif, leur réputation, et rendre la destination de Montréal meilleure pour les agents libres pour l'avenir.
Il ne s'est pas passé grand-chose depuis la fin de la saison, Ray, chez le Canadien. Tu sais, l'année dernière, à cette date-ci, il y avait eu la transaction Sergachev-Drouin. Présentement, l'équipe de marketing du Canadien se croise les doigts pour que Bergevin réalise quelques signatures importantes le 1er juillet. Comment ça va fonctionner pour mettre le marketing à l'avant-plan puis vendre cette équipe-là qui n'a pas été en mesure de se qualifier?
C'est une bonne question. Puis je pense que le marketing a vraiment pris un rôle de deuxième et troisième palier avec l'organisation. C'est ce qu'on remarque, en tout cas. On ne voit pas la même détermination du côté marketing, du côté mise en marché. Pourtant, on est dans une business de haute concurrence, de haute compétitivité. C'est difficile d'aller convaincre les partisans de dépenser leur argent et leur temps pour venir voir des matchs de sport, tout sport inclus. Il y a énormément de compétition par toutes les autres plateformes. Alors, sachant ça, le marketing devrait être encore plus en avant pour vendre l'espoir et la confiance et la conviction que l'équipe va vers l'avant. Mais je reviens à mon point sur Tavares. Il y a une chose qui est claire, c'est que les joueurs se parlent entre eux dans la Ligue. Il y a une chose qui est claire, c'est que tout le monde est conscient que les commentaires négatifs à propos des joueurs et à propos de l'effectif à la fin d'une saison, ça résonne à travers la Ligue. Les joueurs sont pas fous, savent très bien dans quel bateau ils veulent embarquer pour l'avenir.
OK. Alors, okay, ben,
ça, okay. C'est un facteur important dans une décision d'un gars comme Tavares de même rencontrer les Canadiens.
OK. Ben là, ça m'amène à quelque chose. J'allais te demander tantôt si ça allait juste. Si les propos de Bergevin s'étaient rendus aux oreilles des autres joueurs. Donc, moi, je fais une équation, là, très rapide. Je me disais, avant de te parler et avant qu'il refuse de rencontrer le Canadien, je me disais, Tavares a côtoyé Shea Weber, a côtoyé Carey Price à Sochi. Même oui. S'il s'est blessé, il était quand même avec cette équipe-là canadienne qui a gagné la médaille d'or. Alors, oui. Je me dis, en quelque part, est-ce que ça se peut, selon toi, puis ça, c'est des suppositions, est-ce que ça se peut que Tavares ait parlé à Weber et Price et que ces deux gars-là puissent lui avoir dit, écoute, si tu as d'autres options, viens pas ici.
Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, Yannick, de ça? Si toi et moi, on débat un film, un restaurant, un choix d'un lieu de vacances, mais, peu importe.
Oui.
Non, mais c'est sûr qu'on va se parler, puis entre amis, on va se dire les bonnes choses, les vraies choses. Pourquoi? Parce qu'on tient quand même au bien-être de nos collègues, nos collègues et amis, nos collègues et coéquipiers. Alors, c'est sûr que Carey Price et Shea Weber voudraient que John Tavares vienne à Montréal, bien entendu.
Oh oui.
Mais entre amis, off the record, loin de la glace, puis s'ils ont une relation de confiance avec, John Tavares va leur demander, écoute, sois franc avec moi et sois honnête. Puis là-dessus, les Canadiens, tu sais, il y a eu, moi je vais te donner deux, trois incidents là, que je trouve quand même qui reviennent te mordre et te rattraper. Je me rappelle de Mike Camilleri et son incident là, d'avoir été changé entre deux périodes parce qu'il avait dit que le club n'était pas assez bon puis on allait nulle part. Puis je me rappelle de l'incident de John Scott, un gars qui a été un peu complètement méprisé dans son rôle. Puis les Canadiens n'ont pas agi de façon transparente, de façon sincère et courtoise avec un gars comme John Scott. On savait très bien qu'il n'avait pas de rôle important à Montréal. Et finalement, je vais te revenir sur le dossier de Piqué Subban pour te dire que l'organisation a décidé que lui, écoute, c'est un problème. Alors, on est tous d'accord que chacun vit des moments difficiles puis que chacun n'est pas parfait. Moi le premier, toi le deuxième, puis ainsi de suite. Mais à la fin, on est dans une business de valeur pour le partisan. On est dans une business de gagner et de faire de l'argent. Et Piqué Subban, on l'a passé de façon cavalière. Et j'ai rien contre Shea Weber, mais on a perdu tout un joueur et tout un ambassadeur pour le hockey, un gars qui ramenait les partisans qui vendaient des billets. Bon, là, aujourd'hui, on se rend compte que Subban continue d'être un aspirant au James Norris à chaque année. Et pendant ce temps-là, ben, on a des problèmes dans l'équipe. On ne performe pas à la hauteur des attentes. Ces choses-là, ça fait le tour de la Ligue.
OK. Au bilan, Marc Bergevin et Jeff Molson ont parlé de la mauvaise attitude des joueurs lors de la dernière saison. Aujourd'hui, quand perfectionnement du Canadien et sur les gilets, on voit « attitude is everything ». Est-ce que l'attitude fait vendre des billets, Ray?
Bien, premièrement, je comprends pourquoi ils ont mis ça, pour passer un message. Mais je trouve pas ça très original. C'est un peu une campagne marketing des années 80. Je me rappelle de Image is Everything avec Cannon puis André Agassi. C'est des choses qui ont été dites et redites et redites et réutilisées. Alors, Canadien, là, pas trop innovateur, encore une fois. Mais je comprends pourquoi ils disent ça. Est-ce que ça vend des billets? Non. Ça n'a aucun effet sur les partisans. Parce que ce que les partisans veulent, c'est une équipe qui se donne à fond puis qui gagne des matchs. Puis ils veulent avoir de l'espoir qu'on progresse et qu'on s'améliore. Alors, je suis obligé de dire qu'on peut faire croire à tout le monde qu'on va avoir une meilleure attitude cette année. Ils vont tous vouloir savoir est-ce qu'on va marquer plus de buts et gagner plus de matchs. Honnêtement.
Mais Ray, tu sais, il y a quelques années, on avait enlevé le pas d'excuses, no excuses dans le vestiaire il y a 2-3 ans parce qu'on trouvait qu'on se faisait un peu niaiser par ça quand le Canadien perdait des matchs. Mais tu sais, quand tu ne dois pas te donner d'excuses, c'est parce que tu as une bonne attitude. Ça revient à peu près à la même affaire.
Oui, puis c'est vrai que le mot attitude, fondamentalement, c'est important dans ta vie. dans ta vie d'athlète, dans ta vie de conjoint, dans ta vie de professionnel au travail. Voyons donc, on est tous d'accord qu'une mauvaise attitude, ça t'emmène nulle part. Vrai? On est tous d'accord qu'il faut être positif,
c'est sûr,
constructif. Ben oui, bien sûr. Et il faut tous donner le meilleur de soi-même. Bien sûr, on a droit à des défaillances de temps en temps, mais à la fin, encore une fois, c'est pas très créatif. Mais une chose qui est claire, c'est que s'ils veulent mettre leur focus sur l'attitude, ben peut-être qu'on va avoir une équipe qui sera plus déterminée. Peut-être qu'on va avoir une équipe qui va mettre plus d'efforts. Peut-être qu'on va avoir une équipe qui sera plus travaillante. T'sais, ça se peut que ça donne un résultat qui est plus palpable lorsqu'on va les voir sur la glace. Mais à la fin, le partisan veut quand même gagner des matchs et avoir une équipe excitante.
Très intéressant, Ray Lalonde. Merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes pour nous parler. Puis je sais qu'en te parlant, je savais très bien que je parlais avec quelqu'un qui avait une très bonne attitude.
Merci, Yannick. Bonne soirée à toi. Puis merci pour l'invitation.
Salut, Ray. Bonne soirée. Salut bien. Alors, Ray Lalonde, vous voyez, il nous parlait de tout ça. Et tantôt, on va développer davantage sur la question de savoir que John Tavares n'a pas daigné rencontrer le Canadien au cours des derniers jours. Ça se parle, Ray l'a dit, ça se parle. Puis moi, je veux savoir ce soir, je veux pas savoir pourquoi il a pas accepté. Je veux savoir, vous, en tant qu'amateur, ça vous fait quoi? Vous vous sentez comment là-dedans? 20h49, on va faire la pause et on revient immédiatement. Quelques nouvelles dans le monde du sport, entre autres la Coupe du monde de soccer. Donc, on connaît les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale. À tout de suite.